Je présente maintenant Christine Cros. Donc elle anime le département éco-conception consommation durable de l'ADEME. Elle est docteure en économie de l'environnement. Elle travaille à l'amélioration de la prise en compte de l'environnement depuis une dizaine d'années. J'ai là sous les yeux la liste de ses articles, et notamment en s'intéressant aux instruments économiques de mesure des impacts de nos activités, aux instruments économiques pour valoriser la biodiversité, pour étudier les pollutions, etc. Je donne juste quelques exemples des types de publications qu'elle fait. Par exemple, 2001, dans la Revue de l'énergie, l'expérience américaine des permis négociables pour lutter contre la pollution de l'air. Je donne seulement les articles en français. Dans un document de travail de la Direction des études économiques et de l'évaluation environnementale, mécanismes économiques à l'œuvre sur la biodiversité dans les secteurs de l'agriculture, la forêt, l'eau, la pêche, le tourisme et les transports. De même, encore un autre article, les enjeux du changement climatique, quelle gouvernance pour le climat, document de travail de la Direction des études économiques et de l'évaluation environnementale. Voilà, ça vous donne une idée de son domaine d'activité. Je vais donc lui laisser la parole pour 50 minutes à une heure. Enfin, c'est à elle de calibrer son intervention. Et puis, je vais m'installer parmi vous pour regarder la présentation. Et puis, je reviendrai pour la séance des questions. Merci.
Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de produits. Donc les produits, c'est quelque chose que tout le monde connaît et que tout le monde utilise. On a une certaine consommation au niveau européen. Ces chiffres datent de quelques années, mais c'est 3-4 ans. On a modélisé quelque part la consommation d'un Européen moyen. Et après, on peut se rendre compte de quels sont les impacts environnementaux des produits. Alors, il faut déjà avoir en tête, je pense, trois éléments essentiels. Tout produit a des impacts sur l'environnement. L'enjeu, c'est de le minimiser. Donc, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Tout produit est fabriqué dans des conditions sociales. Donc, l'enjeu, c'est de les améliorer, parce qu'on peut être plus ou moins performant par rapport aux conditions sociales. J'avoue que je ne vais pas vraiment aborder cette question-là, même si elle est très importante au niveau du développement durable. Et tout produit pour exister est soumis aux règles économiques du marché. Donc l'enjeu, c'est qu'il soit rentable. Donc, cet enjeu-là, on ne va pas l'aborder en tant que tel non plus, mais je pense que c'était important de le rappeler dans la mesure où si on s'améliore au niveau de l'environnement, mais qu'on est plus rentable sur la scène économique et si le produit n'est plus viable, quelque part, ça ne sert à rien parce qu'il sera éjecté, en tout cas de nos systèmes actuels. Les produits ont des impacts significatifs. On n'est pas dans l'épaisseur du trait. On a l'impression que parce qu'un produit est tout petit, on est vraiment au niveau du détail et que c'est ailleurs qu'il faut faire les efforts. Si on regarde au niveau global, la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'un habitant provient à peu près des produits. Alors, bien sûr, ça veut dire qu'on prend tout en compte, tout ce qu'il a fallu mobiliser autour du produit et du cycle de vie du produit. Je vais revenir un petit peu sur cette notion de cycle de vie, mais l'idée, c'est que la production du produit doit être concernée, mais aussi les transports, la fin de vie du produit, l'utilisation. Et donc, si on fait la totalité de tous ces impacts, on est à peu près à la moitié des émissions de gaz à effet de serre, à l'essentiel de la production des déchets, et puis trois quarts des flux à l'origine de l'eutrophisation. Donc on a aussi beaucoup. Alors l'eutrophisation, c'est la pollution des eaux et la mort de la vie dans les rivières. Ce graphique est tout nouveau, vous pouvez le retrouver sur le site internet du SOES, le service statistique du ministère, il date de vendredi. Je le trouve très intéressant. On est en baissant au niveau de 1990 et on se rend compte de l'évolution des matières consommées par rapport à notre consommation au niveau du pays. Donc c'est des chiffres pour la France. Donc on se rend compte que les matières consommées par habitant, il y a eu une décroissance au début des années 90, mais aujourd'hui on est quand même à quelque chose d'à peu près stable. On a une augmentation de la population, ce qui fait que les matières consommées en absolu augmentent, malgré une forte, quelque part, inventivité ou créativité de nos concepteurs, parce qu'on voit que, par contre, le train de matière consommée par unité de PIB n'arrête pas de descendre. Donc ça veut bien dire qu'on fait des progrès. Pour chacun des produits, on sait le produire en consommant moins de matière. Au niveau individuel, peut-être qu'on augmente aussi la consommation de nos produits. Donc c'est pour ça que les matières consommées par habitant ne décroissent pas de la même manière. Donc il y a ce double effet, l'effet à la fois produit, mais l'effet comportemental en termes de combien j'achète. Et on se rend compte que les matières consommées ont continué à augmenter. Et si on regarde, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on regarde les réserves de pétrole, on voit que bientôt on va arriver à un pic. Et quels que soient les scénarios, donc on voit des tas de scénarios parce qu'on n'est pas en science certaine, on est très bientôt au niveau de ce pic, 2010-2040. Si on regarde les réserves d'uranium, on a à peu près les mêmes courbes. Ces courbes, l'objet aujourd'hui n'est pas de les commenter, mais juste pour montrer qu'on a des réserves finies. Ces matières premières, en fait, c'est des matières épuisables. Il y a aussi des matières renouvelables pour lesquelles l'enjeu, c'est de les exploiter au seuil de renouvelabilité du stock. Mais on est bien dans un monde avec des matières finies. Et la population mondiale n'arrête pas d'augmenter. Donc ça, c'est des chiffres issus des Nations Unies. Et on voit bien qu'il va falloir faire quelque chose. On a des matières premières épuisables. Nous, on ne cesse d'augmenter nos consommations de matières et la population explose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cycle de vie, ce dont je parlais ? C'est une notion qui est multi-étape. Donc, ça veut dire que ça prend en compte l'extraction des matières premières. Alors, l'extraction des matières premières pour des produits manufacturés, pour des produits d'origine renouvelable, c'est l'exploitation de la matière première, donc pour les produits agricoles, forestiers, la pêche. Ça prend en compte la fabrication, donc tous les process de transformation de la matière première qui vont arriver à en faire le produit fini. Transport et distribution, donc le transport est illustré à ce niveau-là, mais bien sûr, entre toutes les étapes, on a des phases de transport et qui sont prises en compte. Et on a une phase d'utilisation. Les impacts en phase d'utilisation, c'est quoi ? Pour un appareil consommateur d'énergie, ça va être la consommation d'énergie. Pour un appareil consommateur d'eau, la consommation d'eau. Donc on peut avoir différents types d'impact. Pour un produit qui se lave, c'est les impacts qui sont liés au lavage. Et enfin, les impacts liés à la fin de vie. Donc la fin de vie est là. Donc c'est quand on jette son produit. Mais on peut aussi valoriser des matières premières qui re-rentrent dans le cycle. C'est pour ça qu'on parle aussi de cycle de vie. Donc on est bien dans un processus qui est multi-étape, multi-critères, parce que c'est important. Donc je vous signalais que nous avons des impacts en CO2, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres impacts, que ce soit sur la pollution de l'eau, la pollution de l'air, justement l'épuisement des ressources naturelles, les impacts sur la biodiversité. On a quand même de nombreux impacts et il faut faire attention quand on essaye d'améliorer les impacts, enfin plutôt de réduire les impacts d'un produit sur l'environnement, de ne pas faire de transfert de pollution, c'est-à-dire où on améliorerait un impact en détériorant un autre. Donc le cycle de vie pour un jean, ça passe par la culture du coton. On voit bien donc les différentes étapes après de transformation du coton. On a des étapes de transport, on a des étapes de teinture, on a des étapes après de fabrication. Quand on arrive au jean, pendant la phase d'utilisation, on le lave et ensuite il va avoir une fin de vie où il va falloir le traiter. Quand on fait une analyse de cycle de vie, on se pose la question donc des impacts qui sont à chacune des étapes. Alors on les évalue et là on se rend compte que au niveau de la culture du coton et au niveau de la phase d'utilisation, c'est là où on a les impacts principaux. Donc c'est déjà une information intéressante pour savoir où il faut faire porter l'effort principalement en termes de réduction d'impact. Au niveau de la culture du coton, on voit qu'on a un gros effet en termes de consommation d'eau. Donc on se rend compte que voilà, là il y a un enjeu, essayer d'améliorer les pratiques culturales de manière à consommer moins d'eau. On a aussi donc des impacts qui sont liés à l'eutrophisation, donc ce que je vous disais, c'est la pollution des eaux, les questions de toxicité humaine ou d'effet de serre. Donc c'est les questions liées aux pesticides. Et au niveau de l'utilisation du pantalon, pourquoi on a tant d'impacts, déchets banals, toxicité et effet de serre? On s'y serait peu attendu, ben c'est bien l'impact du lavage du pantalon. Et forcément, ça ne va pas être la même chose si on lave son jean tous les jours après une utilisation, si on lave au bout de 3 utilisations, de 4 utilisations, voire si on l'emmène au pressing, ce qui est aussi une utilisation qui existe. En tout cas, ça nous donne les enjeux prioritaires. Une fois qu'on a fait le point, que peut faire un producteur? Donc là, je vous cite le cas d'un jean qu'on a accompagné dans une démarche d'éco-conception. Donc c'est pour ça qu'on peut vous le mentionner. Déjà, travailler au niveau de la matière. Donc le coton biologique consomme beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de pesticides, et donc permet de faire des réductions d'impact au niveau de la culture de la matière première. La proximité, le coton est cultivé au Maroc, fabriqué en Tunisie pour être importé en France. On peut aussi avoir des sourcings beaucoup plus loin. L'assouplissement, le délavage mécanique se font de manière justement mécanique et sans chlore. On a essayé d'enlever les rivets, donc beaucoup moins de gadgets, on va dire, sur le pantalon. L'étiquette est faite avec des chutes de fabrication. On essaye donc de maximiser quelque part les produits qui sont utilisés de manière à en avoir moins à utiliser. Et un petit rappel du rôle à jouer par le consommateur, parce qu'on a vu que la phase d'utilisation était très importante au niveau des impacts. Un lien entre ces produits, donc vous doutez très bien que c'est tous des produits éco-conçus. C'était pour vous montrer que l'éco-conception, ce n'est pas pour un produit particulier. On peut aussi bien l'avoir pour de l'éclairage, pour une baignoire, pour une chaise de camping, du maquillage, des détergents. Enfin, tout type de produit peut être éco-conçu. Ça n'est pas réservé à une catégorie. Qu'est-ce que c'est l'éco-conception? C'est juste un nouveau regard et qui ouvre de nouvelles opportunités sur le processus de conception. Alors, ça rajoute un degré de complexité, c'est vrai. Ceci étant, les concepteurs ont toujours eu un regard multicritère. Un concepteur se pose toujours la question de pourquoi je fais mon produit. Donc, c'est le côté fonctionnel. Donc, quelle est la fonction du produit? Qu'est-ce que je veux lui faire faire? Il y a un regard technique. Parce qu'une fois que je sais ce que je veux lui faire faire, il faut que je sache ce que je suis capable de lui faire faire. Donc techniquement, la recherche au niveau des matériaux, etc. Un regard économique, parce qu'on ne produit pas n'importe quoi. On produit des produits qui vont pouvoir se situer sur le marché. Et bien là, on rajoute un regard environnemental, et qui est de se poser la question, est-ce que ce choix-là va avoir des impacts sur l'environnement? Des fois, si on se pose la question au bon moment, ça évite de faire des bêtises qui, quelque part, n'auraient pas eu lieu d'être. Là, c'est juste quelques exemples, ce n'est pas pour stigmatiser, mais c'est juste pour vous montrer que quand on voit des emballages aussi importants, alors que le produit est plus petit, ça fait beaucoup plus de camions sur les routes. Réduire l'emballage, ça paraît rien, c'est pas grand-chose pour le produit. Et ça peut faire beaucoup d'économies. 140 grammes de yaourt dans 210 grammes d'emballage. On peut se poser la question de la pertinence du choix. Alors bien sûr, il y a des enjeux marketing autour de la vente des produits, mais peut-être qu'on peut aussi essayer de les poser différemment, les enjeux marketing. Et là, c'est pareil, des emballages 25 fois plus volumineux que leur contenu. Ce cas-là, vous le trouverez plus. Il y a quelques années, pratiquement tous les téléphones portables étaient vendu justement dans des boîtes qui étaient 25 fois plus grandes. Et en plus, ça n'est même pas un enjeu marketing parce qu'on ne le voit pas au moment où on l'achète, l'emballage. Donc voilà, maintenant que ce point a été identifié, tous les fabricants de portables ont bien sûr réduit les emballages parce que pour eux aussi, ça leur fait faire des économies. Alors vous convaincre que c'est le sens général de l'histoire. C'est un jour européen, mais la réglementation européenne est très structurante, on va dire, dans le droit de l'environnement. Et je trouve que c'est intéressant de regarder un peu ces étapes. Bien sûr, elles se retrouvent dans la réglementation française. mais de les identifier en tant que telles est intéressant. Dès les années 70, on s'est posé la question des émissions des véhicules, donc de quelque part de l'impact du transport. Donc, bien sûr, régulièrement, les normes qui sont sorties de la réglementation 70 ont été réactualisées. Maintenant, on est à la cinquième révision, je pense. Mais donc, c'était la première étape. En 1994, il y a eu, je pense, une révolution conceptuelle qui a responsabilisé les producteurs d'emballages au regard de la fin de vie de leurs emballages. Avant, un producteur, il faisait son produit, il le mettait sur le marché, il ne s'en souciait plus. Là, maintenant, les producteurs d'emballages se doivent soit d'organiser la collecte, soit de participer à un système mutualiste pour pouvoir récupérer les emballages. La directive de 1996 a introduit quelque part une notion intégrée, c'est bien la caractéristique intégrée qui est nouvelle, au niveau des process de production et au niveau du site de production. La directive de 2004, alors je ne pense pas qu'on vous la citera souvent au niveau des produits, c'est la directive responsabilité environnementale. Alors le risque de développement produit est exempté, donc elle ne s'applique pas à proprement parler, mais il est exempté. Ça veut bien dire qu'a priori, il devrait être dedans et quelque part, il suffit de lever l'exemption pour qu'il y ait une responsabilité pleine et entière par rapport aux risques que pourraient entraîner les produits. Et le règlement REACH passe cette frontière parce qu'on a bien une responsabilité des producteurs relative aux substances qu'ils mettent sur le marché. Donc, on voit que étape par étape, l'ensemble du cycle de vie du produit est pris en compte au niveau de la réglementation européenne. Si on regarde de manière plus précise, on a aussi des directives qui, catégorie de produits par catégorie de produits, donc véhicules, équipements électriques, électroniques, produits consommateurs d'énergie, excusez-moi, piles et accumulateurs, donc c'est des produits les plus préoccupants, et puis petit à petit on avance, reprennent toutes ces notions de prévention, de cycle de vie, de conception, de fin de vie, de substances, et à chaque fois entraîne la constitution d'une filière pour s'occuper des produits, pour les récupérer en fin de vie et les traiter en fin de vie, et ce qui entraîne toujours ipso facto un souci de la fin de vie dès la conception. Donc on recommence à boucler la boucle. Politique produit à proprement parler, il y a trois étapes qu'on peut citer. Il y a eu en 92 l'étiquette énergie. C'est la fameuse étiquette qu'on voit à chaque fois qu'on achète un produit électroménager. Donc sur les frigos, l'étiquette qui va de A à G et du vert au rouge. Il y a la communication de la commission des 2003 qui aborde toutes ces questions vraiment relatives aux produits de manière intégrée. Et à partir de laquelle on a la création d'un écolabel européen pour identifier des produits plus vertueux pour l'environnement. Mais on aborde aussi les questions de l'écologisation des marchés publics, de mesures d'étiquetage. Et enfin, cette politique produit donc de 2003, quelque part, a connu un second souffle l'an dernier, en 2008, par le plan production et consommation durable qui a été dévoilé par la Commission européenne et qui a donné lieu à plusieurs révisions de directives en place que j'ai mentionnées plus tôt, ou celle du règlement écolabel dont je n'ai pas encore vraiment parlé. Ce n'est pas seulement un mouvement réglementaire. Ce n'est pas seulement un mouvement réglementaire. Dans une étude qu'on a faite il n'y a pas très longtemps, en fin d'année dernière, on s'est rendu compte que l'éco-conception, alors il y a plusieurs sources, enfin, il y a plusieurs origines à la démarche d'éco-conception. La plupart du temps, c'est une volonté individuelle d'un entrepreneur. Il a envie et il entraîne son entreprise. De temps en temps, il y a une anticipation des marchés ou une anticipation réglementaire. La plupart du temps, c'est bien l'entrepreneur qui commence. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une entreprise qui commence à faire de l'éco-conception, elle commence par un produit. Et en fait, très rapidement, elle généralise la démarche sur l'ensemble des produits. Donc, c'est qu'elle voit bien qu'il y a un intérêt. Elle se rend compte donc que cet intérêt, il est identifié essentiellement comme une source de créativité et d'innovation au niveau de l'entreprise. On s'en rend compte soit par des innovations technologiques simples, soit par des innovations de rupture. Et en fait, quand on analyse les dépôts de brevets, souvent, les innovations de rupture arrivent quand on s'est posé des questions supplémentaires, quand on a buté sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à résoudre. En rajoutant le regard environnemental, on rajoute effectivement un degré de complexité, mais on rajoute aussi donc la possibilité de faire une innovation de rupture. Et des fois, tout simplement, des innovations organisationnelles qui permettent aussi de réduire les impacts. Au-delà d'un aspect, on va dire, technique, donc l'éco-conception permet d'augmenter les profits. Sur donc la trentaine d'entreprises interrogées, 28 ont dit qu'elles ont eu une augmentation de profits suite à la démarche. Les deux autres, c'était une stagnation. Enfin, il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu d'amélioration. Pourquoi une augmentation des profits ? Soit tout simplement par une augmentation des ventes, ou alors même par des baisses de coûts. Parce que souvent, l'éco-concevoir, c'est faire des économies d'énergie, faire des économies de matières premières, donc c'est faire des économies tout court. Alors ça demande un investissement en R&D au départ, donc ça renvoie aussi à la créativité. On ne crée pas sans investissement en R&D. Mais ensuite, ils sont plus que compensés par les baisses de coûts variables qui sont entraînées. Une fois qu'on a essayé de s'améliorer au niveau des produits, il faut faire connaître, quelque part, les réductions d'impact. Alors là, on a des bons et des mauvais logos. C'est la jungle des logos. On nous dit assez régulièrement, le consommateur ne sait pas se retrouver au milieu de la jungle des logos. Alors, comment faire ? Et même pour un producteur, comment faire savoir, quelque part, que je suis bon ou que je ne suis pas bon ? Il y a eu une normalisation internationale pour essayer de mettre de l'ordre, quelque part, sur les labels ou les déclarations environnementales qui pouvaient être apposées sur les produits. On a deux, trois types. Alors, les écolabels. Qu'est-ce que c'est que les écolabels ? Donc, je vous ai mis les petits signes. Vous allez les revoir à plusieurs reprises, le NF Environnement et l'écolabel européen, dans le développement desquels l'ADEME est impliquée. C'est pour ça que nous pouvons faire la promotion, alors que nous n'avons pas à faire la promotion de labels privés. Les écolabels, la particularité, donc, c'est qu'il y a un cahier des charges qui est très précis, qui est objectif, qui est libre d'accès. Donc, ça veut dire que, clairement, on dit telle substance ne sera pas utilisée ou on ne peut pas avoir un process de production qui émette de plus de temps de telle substance, enfin de tel polluant. Voilà, il y a un cahier des charges très, très précis avec des valeurs limites. Il est sélectif. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 20% du haut du marché, donc par rapport à la sélectivité des critères. Des fois, c'est reproché à l'écolabel par ceux qui souhaiteraient que ce soit un critère d'excellence plus important et qui n'identifie que les 2% du haut du marché. Maintenant, ça donne un ordre de grandeur. C'est 20%, ce n'est pas tout le marché. Il est multicritère, donc on fait bien attention à ne pas entraîner quelque part de transfert de pollution, dont je parlais tout à l'heure, et il porte sur l'ensemble du cycle de vie. Donc, si on est honnête, c'est difficile d'appréhender les transports. C'est la phase qui est la plus difficile à appréhender dans un référentiel technique. Et il est certifié par tierce partie indépendante. Ça veut dire qu'un produit qui appose un écolabel, il peut dire que quelqu'un extérieur à l'entreprise a vérifié qu'il était bien en conformité avec le cahier des charges. Les autodéclarations. Alors, c'est des déclarations qui sont informatives, qui sont non sélectives. N'importe quelle entreprise peut avoir une autodéclaration quelque part sur son produit. C'est le langage qu'elle a envie de véhiculer envers le consommateur. Les critères sont totalement libres. Elle va vouloir mettre en valeur le critère qui est quelque part avantageux pour son produit. Mais d'un autre côté, ça ne nous dit rien sur les autres critères environnementaux. Et il n'y a aucune certification qui garantisse la véracité des dires de l'entreprise. Ça ne veut pas dire que les autodéclarations ne sont pas bonnes. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire a priori. Il y en a qui sont... Alors, la démarche de l'écolabel, j'ai oublié de le dire, c'est la certification est payante. Parce que justement, on paye quelqu'un pour certifier son produit. Il y en a tout simplement qui n'ont pas envie de rentrer dans un processus de certification payant. Il y en a qui ont d'autres démarches de marketing. Mais donc, il y en a qui sont très, très bons et qui font de l'autodéclaration. Mais il y en a qui ne sont pas bons du tout. problème, c'est qu'il faut regarder après soi-même pour voir la véracité des déclarations. L'éco-profil, donc l'éco-profil, c'est plutôt quelque chose qui est adressé dans des relations professionnelles. C'est informatif. De la même manière, il n'y a pas un cahier des charges particulier. Il n'est pas sélectif. N'importe quelle entreprise peut faire un éco-profil sur la base de ses performances environnementales. Il est multicritère et cycle de vie. Donc, en général, c'est une information qui découle d'une analyse de cycle de vie qui a été conduite par l'entreprise. Et donc, charge à celui qui va la lire de se faire son idée sur comment se situe l'entreprise. Et donc, ça peut être certifié ou pas. Voilà à quoi ressemble un éco-profil. Donc, ça montre les améliorations par rapport à un ancien produit. Des fois, c'est juste des chiffres. On voit des barres d'amélioration. C'est à destination des professionnels qui vont mettre un certain temps pour lire quelque part les caractéristiques techniques de la fiche. Alors, les professionnels, c'est qui ? Ça peut être l'achat public. L'achat public, c'est 10% du PIB, à peu près. Donc, c'est pour ça que depuis 2003, on se préoccupe d'exemplarité de l'État et des acheteurs publics, hein, territoriaux de la même manière, pour avoir un effet d'entraînement sur le marché. Quelque part, le pouvoir de l'acheteur public, en l'occurrence, a un poids suffisamment représentatif pour pouvoir entraîner le marché. On a quelques objectifs qui ont été fixés, hein, 15% de produits bio à l'horizon 2010 et 20% à l'horizon 2012 pour les acheteurs publics. On a une circulaire du 3 décembre 2008, donc dans les suites des travaux du Grenelle de l'environnement sur l'exemplarité de l'État au regard du développement durable, qui a décliné une vingtaine de fiches qui permet justement à tout acheteur public de s'appuyer dessus pour pouvoir introduire des critères environnementaux dans ces appels d'offres. On a aussi des réseaux territoriaux, donc commande publique et développement durable, qui réunissent des acheteurs publics locaux, donc au niveau de l'ensemble des collectivités territoriales, pour pouvoir justement mutualiser les bonnes pratiques et essayer de voir comment construire des appels d'offres intégrant des critères environnementaux. Mais donc l'achat professionnel, c'est aussi l'achat des entreprises. Donc dans les grandes entreprises, il y a une direction achat. Dans des plus petites, il n'y a pas de direction achat, mais il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de l'achat. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le développement durable est cité comme le deuxième objectif des directeurs achat cette année. Donc cette année, année de crise, il y a 90% des directeurs achat de grandes entreprises qui mentionnent cette dimension. Et c'est le deuxième après la réduction des coûts directs, mais avant la réduction des coûts indirects. Donc je pense que c'est quand même intéressant. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose, quelque part, à gagner dans l'introduction de cette direction. 41% des directeurs achats pensent que le développement durable permet de réduire les coûts. C'est un peu le corollaire de ce que je venais de dire. Et par contre, ils butent sur la difficulté de mise en œuvre, justement les difficultés techniques. Et donc, notre rôle à nous, c'est aussi de les aider à introduire ces dimensions techniques, à référencer des offreurs et à identifier des modes de communication autour des vertus environnementales des produits qui soient plus facilement compréhensibles. L'intérêt des écolabels officiels, donc, c'est à la fois c'est le fait qu'il y a aussi, quelque part, des critères d'aptitude à l'usage. Donc, ça veut dire qu'on a un minimum de qualité des produits qui est garanti. Il y a une prise en compte de l'ensemble du cycle de vie et des impacts environnementaux sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Les critères sont élaborés de manière collégiale, en présence donc, de représentants des industriels, mais aussi une association, des pouvoirs publics. Donc, quelque part, les différents points de vue sont apportés au débat. Et quelque part, il y a un accord, ou en tout cas une convergence toujours au niveau de cette élaboration. Et il est attribué par certification par tierce partie indépendante. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur écolabel.fr. Les caractéristiques des autodéclarations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut avoir le pire comme le meilleur. Donc quelqu'un qui est bien informé, qui a des connaissances techniques intéressantes, va pouvoir regarder précisément ce qu'il trouve sur le produit. Quelqu'un qui est peu informé ne peut pas se fier à l'autodéclaration de manière trop rapide. La norme ISO 14021, en fait, précise les exigences auxquelles les autodéclarations doivent répondre. Si on peut se permettre de synthétiser la norme en 4 points, je dirais ça tourne surtout autour de la clarté de l'information qui est donnée au niveau du consommateur, de sa transparence, donc qu'on étaye bien et qu'on explique bien ce qu'on dit, sur le fait qu'elle doit être scientifiquement solide et documentée. Le consommateur a conscience que les produits ont des impacts sur l'environnement. Cette année, donc, quand on a demandé à un panel, j'avoue que je ne me rappelle plus du nombre du panel, je vous le retrouverai. Pensez-vous que la façon dont vous consommez peut avoir un impact plutôt positif sur l'environnement? On voit que 69% des consommateurs pensent qu'ils peuvent avoir un impact positif sur l'environnement, 9% un impact négatif et 22% ne sait pas. Donc on a près de 80% des consommateurs qui ont conscience que leurs actes d'achat vont pouvoir avoir des impacts sur l'environnement. Alors que peut faire le consommateur? Il a conscience qu'il peut avoir un impact. Maintenant, quelle est sa marge de manœuvre? Alors on voit qu'il y a beaucoup de phénomènes de réaction collective ou non, enfin, ou individuelle, pour des consommateurs engagés. Il y a la possibilité d'organiser des boycotts. Donc ça, c'est une forme d'expression qui est connue, qui avait été mise très en avant à la fois sur des scandales comme Total et les marées noires, donc où il y avait des appels au boycott des stations-service. Il y a eu Nike en son temps aussi sur plutôt des aspects sociaux. Et on voit que le 20e et même, je crois, le 19e siècle est émaillé d'appels au boycott et de réactions organisées, collectives, d'associations de consommateurs. On peut avoir des coopératives de consommateurs. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir que les Biocoop, qu'on connaît, qui sont quand même maintenant largement diffusées sur le territoire, à l'origine, c'est des coopératives de consommateurs, donc des collectifs, qui se sont dit « Non, on ne veut pas rentrer dans la consommation de produits issus d'une agriculture intensive. » Et donc, on va se mettre ensemble pour pouvoir avoir un pouvoir critique suffisamment important pour que les producteurs trouvent leur débouché chez nous. Il y a des modes de consommation alternatifs ou quasi-alternatifs, comme les AMAP, dont vous devez avoir entendu parler, qui là, en fait, sont des formes de consommation de proximité et qui renvoient plutôt à une notion de courte distance et de gouvernance collective de la production, à la fois des produits que l'on cherche à cultiver, puis à la fois des modes de production. Après, il y a aussi l'utilisation des labels, qui est certainement la façon la plus simple. Donc, je vous ai parlé des 2 labels officiels, mais on a un guide des labels dans la rubrique éco-citoyen de l'ADEME, ce qui pourra vous en dire plus sur tous les logos et labels auxquels vous pouvez être confronté quand vous faites des achats, avec une analyse objective sur ce que recouvre ce label. Sinon, je dirais que le consommateur a 2 niveaux d'action. Il a un niveau d'action au niveau du choix de son achat. Donc c'est un peu ce dont on vient de parler. Par rapport à l'exemple du jean que j'ai pris pour le producteur, là, il peut faire le choix d'acheter un jean en coton bio, un pantalon non délavé. Il faut savoir que les pantalons délavés à l'achat sont des pantalons qui ont été teints complètement, puis délavés chimiquement. Le pantalon avec le moins de fioritures possible, un pantalon qui ne va pas se démoder rapidement. Il y a quand même tout un tas de questions qui peuvent être abordées au moment de l'achat. Et aussi faire attention au niveau de ses pratiques d'utilisation. Donc, au cours de cette semaine, et avec les enjeux du climat, on met en avant tous les actes de réduction des consommations d'énergie, ce qui est bien. Mais il n'y a pas que les consommations d'énergie tout au long, quelque part, de ces comportements. On peut faire attention. pour le gin, on a le juste dosage des produits lessiviels. Quand on sait qu'il y a des problèmes de trophisation, ça ne sert à rien d'en mettre deux fois plus que ce qui est préconisé par le fabricant. S'il y a une préconisation, c'est qu'elle a été calée pour l'usage. On peut baisser les températures de l'envasage, réemployer le gin. Voilà. Donc on a aussi un niveau comportemental. Le consommateur a conscience donc, que les produits ont des impacts sur l'environnement. 66% des Français déclarent faire des achats responsables, dont 20% régulièrement. Ce 20% est très, très stagnant depuis quelques années. 83% des Français déclarent agir au service de leurs convictions au travers de leurs choix d'achat. Et 79% des Français déclarent acheter des produits respectueux de l'environnement, donc dont 25% régulièrement. Alors, il y a toujours un écart entre le déclaratif et l'acte réel, bien entendu. On va venir à l'acte réel. C'est quand même intéressant de voir cette augmentation du déclaratif. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que la plupart des Français aujourd'hui ne se sentent pas le droit devant un enquêteur de dire « je m'en fous de l'environnement ». Il y a quelques années, c'était facile à dire. Ça paraissait pas quelque part illégitime. Au jour d'aujourd'hui, on a conscience que c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Les gens y vont plus ou moins vite, plus ou moins régulièrement. Mais même s'il y a un écart entre les pratiques et le déclaratif, l'écart ne va pas s'augmenter. Et quand les déclaratifs augmentent, les pratiques augmentent aussi. Cette année, ce qui était intéressant et qu'on a vu croître régulièrement, c'est donc pour vous, consommer de manière responsable, c'est ne plus consommer de produits ou services superflus. 45% des Français répondent ça. Réduire sa consommation en général, on a un tiers, on était à un tiers l'an dernier, et un petit peu moins de consommation orientée par rapport à des produits labellisés, à des produits équitables. L'analyse que font les sociologues de ces réponses, c'est bien que le consommateur cherche à reprendre sa consommation en main. C'est un peu la prise de conscience qu'on a été débordé quelque part par les appels du marché, par le marketing, par les grandes surfaces, par le fait qu'il était facile de consommer, par les publicités. Et donc on a bien vu là dans le deuxième ou troisième transparent qu'on a une augmentation quelque part des produits que l'on consomme, hein, même s'ils sont produits avec moins de matière. Et qu'aujourd'hui, il y a une volonté de reprise en main et de savoir de manière rationnelle ce que l'on fait. Donc les labels, c'est pas si mal quand même. Les éléments de suivi de la consommation réelle en dehors du déclaratif, on n'en a pas tant que ça. Mais on a au moins le suivi des labels qui sont connus et reconnus par les consommateurs comme étant des labels faisant référence à des signes soit environnementaux, soit équitables. Le AB ne cesse d'augmenter. Le Max Havelaar ne cesse d'augmenter. Là, vous avez la répartition des voitures par catégorie. Donc là, c'est pareil, les A, B, C, D, E, F, G, les catégories. On voit que le A... le A reste très très faible parce qu'il est très exigeant, mais le B ne cesse d'augmenter et que par contre les catégories plus polluantes ne cessent de réduire. On a un déplacement des courbes sur quelques années qui est quand même assez important. Les écolabels, là, ces deux courbes vous montrent l'évolution des chiffres d'affaires des produits écolabellisés en France. Donc en orange, vous avez le NF Environnement et en bleu, la petite fleur. On voit qu'on a une croissance régulière. Alors après, on part de très bas, mais on a quand même une croissance, hein, ce qui, justement, en période récente de crise, n'est pas si évident. Et une évolution du nombre de titulaires également, donc certifiés en France. Ces deux graphes sont complémentaires parce que l'évolution du chiffre d'affaires nous parle quelque part de l'acte d'achat du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui ont envie d'acheter des produits écolabellisés, alors que l'évolution du nombre de titulaires nous parle des producteurs. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont envie de fournir des produits écolabellisés au marché. Le Grenelle de l'environnement, donc c'était l'an dernier, ça a commencé il y a 2 ans. Le Grenelle de l'environnement a fait monter la question de la consommation responsable comme un vrai sujet politique. C'est la première fois, donc c'est assez notable. On avait déjà eu des plans climat, on avait déjà eu des plans biodiversité, des plans santé-environnement, même si le Grenelle de l'environnement est allé plus loin sur ces sujets. Mais sur la consommation, c'est bien la première fois que, quelque part, le politique s'est saisi du sujet en tant que tel. Je dirais que les grandes orientations qui sont sorties du Grenelle de l'environnement, c'est des allégations fiables sur les produits, une bonne utilisation des arguments environnementaux dans la publicité et un affichage obligatoire des impacts en CO2 et autres polluants d'un produit. Pour les allégations fiables sur les produits, l'idée, c'est de rendre obligatoire l'ISO 14021, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc, qui explique comment on utilise une terminologie pour qu'elle soit compréhensible par rapport aux consommateurs et qu'elle n'induise pas en erreur. Pour les arguments environnementaux dans la publicité, donc il y a eu une réforme du BVP, qui est le Bureau de vérification de la publicité, qui est devenu l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, sur quelque part l'élaboration d'une doctrine et aussi un jugement des différentes publicités. Donc là, je vous ai mis quelques publicités qui ont été identifiées en manquement l'année dernière. Le prochain rapport, le rapport de cette année, on y travaille, il n'est pas encore sorti. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de mettre un véhicule hors des sentiers battus. Parce que ça, c'est une incitation à aller dans des milieux naturels avec des impacts sur la biodiversité importants. On n'a plus le droit, par exemple, de promouvoir des... De donner des messages contraires quelque part à l'intérêt général. Là, on voit maintenant, pardon, j'arrive même plus à lire. Maintenant, je peux enfin boire de l'eau du robinet, comme si le petit produit qui est en vente, l'eau du robinet, n'était pas buvable. Alors que on sait que les impacts environnementaux de l'eau du robinet sont quand même bien moindres que de l'eau en bouteille. Et là, donc sur les énergies propres. Oui, j'arrive plus à le lire, vous le verrez de près. C'est notable que la RPP a un vrai impact quelque part en termes de régulation de la publicité. On voit que le 8 janvier, suite à l'intervention de la RPP, Areva a changé sa signature. Avant, ils avaient une signature institutionnelle, l'énergie au sens propre. L'énergie ne peut pas être propre véritablement. Maintenant, on a eu un changement de signature institutionnelle. Donc, on a bien un regard collégial qui permet de faire avancer les choses. Sur l'affichage environnemental, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette année, 85,5% des Français déclarent vouloir des informations sur les impacts environnementaux des produits sur l'étiquette de ces produits. Alors, le chiffre est très, très important. Quand on fait des sondages et qu'on demande aux gens s'ils veulent plus d'informations, ils en veulent toujours plus. Donc, C'est aussi quelque part presque naturel de vouloir de l'information. Ce qui est intéressant, c'est que ce chiffre a quand même augmenté de 20% entre l'an dernier et cette année. Donc, il y a une préoccupation croissante sur ces sujets. Le Grenelle de l'environnement a conclu sur trois éléments. Un, une obligation réglementaire d'affichage à l'horizon du 1er janvier 2011. Donc, clairement, ça veut dire qu'à partir de 2011... Alors, ce n'est pas au 1er janvier 2011, parce qu'il va falloir des décrets d'application qui vont dérouler les catégories de produits qui sont concernées les unes après les autres. Mais dans les lois Grenelle qui sont en cours d'adoption de notre Parlement, on a bien cette obligation où on aura des informations concernant les émissions de CO2 de l'ensemble du cycle de vie du produit, mais aussi d'autres impacts environnementaux. On voit bien que pour un détergent, par exemple, le CO2 ne fait pas tout. Il faut aussi se poser la question, certainement, de l'impact en termes d'eutrophisation, parce qu'il se retrouve dans les eaux usées et pose un problème au niveau de l'eutrophisation. Donc, on voit bien que pour d'autres produits, enfin pour chacune des catégories de produits, on a des impacts qui leur sont particuliers. On a des opérations pilotes volontaires que l'ADEME accompagne bien souvent, mais pas toujours. On a aussi des professionnels qui souhaitent s'engager au niveau d'opérations pilotes de manière proactive tout seul. Et une demande à l'ADEME d'élaborer un référentiel de bonnes pratiques et une base de données publique. Qu'est-ce que c'est que ce référentiel de bonne pratique? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même très, très technique. C'est juste pour vous dire qu'à l'AFNOR, donc qui est l'Agence française de normalisation, on a une plateforme générale qui réunit aujourd'hui, je crois, 400 participants. Alors, bien sûr, physiquement, non, mais on a 400 inscrits sur les listes qui reçoivent les documents et qui sont... régulièrement informés, qui régulièrement réagissent. On a, après, qui rendent compte auprès de cette plateforme générale, on a un groupe de travail méthodologique qui précise des méthodologies qui seront communes à l'ensemble des produits. On a des groupes de travail sectoriels qui sont organisés par catégorie de produits pour identifier quels sont les impacts pertinents pour chacune des catégories de produits. Donc, on n'aura pas les mêmes impacts pour l'alimentation ou pour l'habillement, par exemple, ou pour des détergents. Donc, c'est pour ça qu'on avait besoin d'avoir des groupes sectoriels. Et on a un groupe qui travaille sur le format d'affichage, qui est le mode de restitution aux consommateurs pour que ce soit le plus compréhensible possible. Sur l'ensemble des groupes, parce qu'il y en a certains qui sont dans les groupes sectoriels et pas dans le groupe général, on a à peu près 600 participants. Alors, qui sont ces participants? Ah, j'ai oublié de mettre une diapositive sur la gouvernance du projet. Ces participants, c'est à la fois des industriels, à la fois des représentants d'industriels, donc de fédérations, à la fois des associations environnementales, enfin des associations représentant l'environnement, des associations représentant les consommateurs. On a l'État, bien entendu. On a des experts, des consultants, tout simplement, qui viennent aussi participer à ces travaux. Donc, on a, quelque part, les représentants de la société de manière élargie. À l'AFNOR, on est donc dans une enceinte de normalisation, on fonctionne au consensus. Donc là, l'idée, c'est bien que tout le monde ait des modes de calcul communs pour pouvoir afficher des informations qui vont être comparables une fois qu'on va s'adresser aux consommateurs. Et donc là, je vous donne quelques exemples de projets pilotes. On a des projets pilotes... Soit par des producteurs, soit par des distributeurs. Donc on voit là Alter Eco avec un chocolat qui affiche le contenu CO2 de son chocolat sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc ça, c'est en face arrière de l'emballage. Et à l'intérieur de l'emballage, il explique bien l'ensemble de sa démarche, à la fois au niveau de la comptabilisation et de la compensation du CO2 de son produit. Switcher, qui pareil affiche, donc c'est un fabricant textile, les émissions de CO2 qui sont liées à son produit. On a Orange, qui pour les portables et les box a un indicateur multicritère. C'est le seul à ce jour, donc c'est assez remarquable. Donc il y a 5 indicateurs qui sont évalués de manière systématique. Là, on a un curseur qui dit la qualité du produit par rapport à ces indicateurs, et on a une note globale qui est donnée par Orange. On a la Caisse d'épargne qui a fait... Excusez-moi, j'y touche plus. On a la Caisse d'épargne qui a fait aussi une même démarche, donc en ayant un code couleur qui se rapproche de celui de l'étiquette énergie qu'on connaît bien, en donnant des informations sur la sécurité et la responsabilité, mais aussi sur le climat. Et donc là, ça renvoie au contenu CO2. Alors quand on parle d'action ou d'obligation, ça renvoie bien à un calcul de l'entreprise, du prorata des émissions de l'entreprise qui est derrière. On a 2 centres Leclerc dans Nord-Pas-de-Calais qui ont fait la démarche d'afficher sur l'étiquette de prix en rayon les émissions CO2 du produit. Donc là, on n'est que sur des produits alimentaires, mais à la fin de ces courses, sur le ticket de caisse, on peut trouver le total CO2 de ces achats. Donc là, quelque part, l'enjeu, c'est de s'améliorer soi-même par rapport à un bilan mensuel. Et Casino, le groupe Casino, qui, sur l'ensemble de ses produits de marque propre, petit à petit, introduit aussi ses émissions de CO2. Donc là, en face avant, on a une petite feuille avec le poids en équivalent CO2 du produit. Et en face arrière, on a un indice carbone qui situe le produit par rapport à d'autres produits. Cet affichage, je pense que beaucoup d'entre vous ne le comprendront pas à court terme. Parce qu'on a pas on a peu de référentiels, c'est une nouvelle information. L'idée, c'est que petit à petit, elle rentre dans notre quotidien et elle soit intégrée au moment de l'acte d'achat. Le consommateur, de la même manière que le producteur, fait en permanence un choix multicritère. Alors, c'est vrai qu'il va vite, mais il ne choisit pas qu'en fonction du prix, il choisit aussi en fonction de la qualité du produit, en fonction de son goût, en fonction du marketing, en fonction d'autres éléments qu'il a intégrés. C'est un choix inconscient la plupart du temps, parce qu'on fait souvent des choix répétitifs. Là, l'enjeu, c'est bien que cette nouvelle information, petit à petit, entre dans ce choix multicritère et oriente aussi les choix du consommateur. Ce sera un moyen pour le producteur vertueux de faire savoir justement qu'il est meilleur que quelqu'un d'autre, parce que les chiffres seront comparables, et ce sera un moyen pour le consommateur d'orienter ses choix. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Donc nous passons aux questions. Pas sur l'abstention, hein, s'il vous plaît.
Non, trois questions. Non, ouais, route même. En France, n'est-il pas possible de faire le transport gratuit? Voilà. Et deuxièmement, développer la navigation fluviale sur la Seine et des marchandises sur la Seine. 1. 2, reboiser le Sahara et dessaler l'eau de mer pour des pays qui n'ont pas d'eau potable. 3e question qui m'inquiète et qui m'inquiète surtout. Je veux donc qu'il y a 2 pays. Le Maroc, vous avez cité dans le film. Dans le diapo, et le Mali, 2 pays qui sont arides, comment fait-il qu'ils produisent beaucoup de coton alors que vous avez dit qu'il faut beaucoup d'eau pour produire du coton? Alors ça me surprend. Merci.
Je ne sais pas ce que vous voulez répondre. Peut-être sur le coton.
Alors, sur la première question, oui, on peut développer le transport fluvial. Il y a d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui essayent de développer le transport fluvial et qui implantent leurs entrepôts près des rivières pour pouvoir économiser des camions. C'est beaucoup moins émetteur en CO2 et c'est vraiment quelque chose qui est en cours. Sur la deuxième question, je pense que ça sort un petit peu du champ des produits. Donc la reforestation des déserts, oui, pour des enjeux à la fois climatiques et de biodiversité. On n'est quand même pas directement dans le sujet d'aujourd'hui. Et sur la troisième question, alors effectivement, les enjeux de localisation renvoient quelque part aux impacts environnementaux au niveau des transports. Mais vous avez raison de souligner que le transport n'est pas tout et qu'il faut effectivement faire attention à ne pas bouleverser quelque part un écosystème local et dans une zone aride pouvoir pomper toute l'eau. Effectivement, le coton, c'est lui qui a asséché la mer d'Aral. Donc il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux au niveau locaux à prendre en considération, effectivement.
Oui, allez-y. Non, merci, ça va.
Oui.
Allez-y.
Bon, je voudrais donc continuer sur le contrôle des marchandises. Ça semble un petit peu s'améliorer au plan européen. Mais que pouvez-vous faire sur tous les produits qui viennent des pays émergents? Comment allez-vous contrôler le cycle de fabrication? Car si je regarde ma veste, par exemple, c'est marqué telle marque, mais on ne sait pas du tout. Ils achètent le tissu quelque part, ils font fabriquer dans un autre endroit et le diffuse un peu partout dans leurs magasins. Donc comment voulez-vous contrôler justement ce cycle? Première question. Deuxième question, en ce qui concerne l'autodéclaration. Bien souvent on entend des groupes importants, tels Danone. Prenez tel yaourt, ça va vous enlever vous faire diminuer le taux de cholestérol. On se demande si c'est vraiment contrôlé pour qu'on puisse aux consommateurs annoncer de telles choses, ou sinon nous nous trouvons peut-être devant une publicité mensongère qui peut être poursuivie d'ailleurs sur le plan pénal. En ce qui concerne les produits recyclés, vous avez cité Orange. Et effectivement, on va voir, j'ai entendu dernièrement parler que les téléphones allaient être recyclés, les vieux téléphones, et revendus à un prix moins important que les neufs. Peut-être que c'est une bonne initiative. Mais mon inquiétude vient sur justement tous ces pays émergents. Vous avez une jolie robe. Est-ce que vous avez regardé comment elle a été fabriquée et dans quelles conditions? Et je ne parlerai pas des conditions d'esclavage et d'utilisation et d'exploitation des enfants dans ces pays-là.
Je ne pense pas être consommateur représentatif parce que particulièrement informé. Non, sur la première question, sur le contrôle. Alors, bien sûr, là, on est en train... Ce n'est pas seulement le problème des pays émergents ou des exportations. On est en train de mettre en place... la production d'une information sur un produit, mais cette information va porter sur l'ensemble de la chaîne de l'offre. Et donc, bien sûr, ça a des exigences en termes de traçabilité qui sont très importantes et qui posent problème. Donc, on est en train d'y travailler dans les groupes de travail qui se tiennent à l'AFNOR. Au niveau des importations, pour le moment, on va être obligé d'avoir recours à des données par défaut, donc des valeurs approximées, quitte à l'importateur ou au producteur prouver que quelque part il fait mieux et pouvoir avoir une donnée réelle qui va être apposée sur le produit. Donc à court terme, c'est certainement la seule solution qui serait faisable. Pour les autodéclarations, il y a un contrôle qui est assuré par la DGCCRF, qui est la Direction générale de la répression des fraudes et de la concurrence, enfin qui est la protection du consommateur. Effectivement, ils peuvent sanctionner. Je sais qu'il y a des contrôles sur des allégations environnementales. Souvent, ces contrôles sont faits d'ailleurs par dénonciation de concurrents qui demandent à la DGCCRF d'aller voir un peu cette allégation. Maintenant, tant qu'elle n'a pas été contrôlée, c'est un peu comme le contrôle fiscal, hein, tant qu'elle n'est pas tombée sur la mauvaise, elle reste de la même manière. Et je ne me rappelle plus de la dernière question. Le recyclage. Alors, le recyclage, c'est a des impacts environnementaux aussi. Hein. C'est, après, ça dépend quelque part les cycles de vie des produits et les impacts qui sont impliqués. L'initiative à laquelle vous faites référence, c'est pas du recyclage, c'est beaucoup mieux, c'est de la réutilisation. C'est de la remise en état d'un portable qui existe. Et clairement, donc nous, on a fait une analyse de cycle de vie du téléphone portable que vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'ADEME et qui montrait que les impacts principaux sont bien la production du portable. Et donc là, on donne une seconde vie au portable en évitant de repasser par cette étape production. Je pense que c'est vraiment une initiative très, très intéressante pour l'environnement.
Allez-y, oui.
Vous avez montré un graphique en début de présentation qui illustrait enfin, les évolutions sur un indice de matière utilisée. Et c'est notamment suivi par unité de PIB qui m'a choqué et la remarque que vous avez faite derrière sur... vous avez loué le travail des industriels et notamment des éco-concepteurs. Et je voudrais savoir, enfin, je voudrais plutôt remettre en cause ce diagnostic en disant que c'est aussi lié en partie à la virtualisation, à la dématérialisation de l'économie. Et un certain nombre de choses dont l'économie financière et qui est responsable d'un certain nombre, on sait, de dégradations sous l'angle des ressources, enfin, sous l'angle humain et social que vous n'étudiez pas, mais je tenais à préciser et à réclamer éventuellement une réaction.
Alors, je reconnais que j'ai peut-être été rapide sur l'analyse du graphe. Maintenant, je ne vois pas l'économie financière, l'impact qu'elle peut avoir sur cet élément-là. Toujours est-il qu'on a des améliorations claires par rapport aux produits et par rapport à des réductions de produits. Et ça, quelque part, de manière transversale, hein, par ceux qui veulent faire de l'éco-conception, même ceux qui sont moins engagés. Et par contre, on a aussi quand même une augmentation de la consommation qui contrebalance cet effet-là.
Bon, attendez, on poursuit quand même parce que c'est pas réellement dans le sujet. Allez-y.
Moi, j'ai une question en fait. Pardon. J'ai une question par rapport au contenu CO2 en fait qui doit être affiché sur tous les produits au niveau enfin 2011. Est-ce que ça sera à chaque entreprise de faire cette évaluation pour chacun de ces produits? Et comment est-ce qu'on peut le contrôler en fait?
Alors oui, ce sera à chaque entreprise. Comme toute obligation réglementaire, une obligation réglementaire, c'est l'entreprise elle-même qui est responsable. Le contrôle après est fait par quelque part la police réglementaire de la question, en l'occurrence la DGCCRF. Alors, les décrets ne sont pas encore rédigés. On est vraiment au début du processus. La loi est en cours d'adoption. Là, on est en cours d'élaboration des méthodologies. Et donc, c'est les décrets qui préciseront les modalités de vérification et de contrôle. Mais c'est bien la DGCCRF.
Monsieur.
Juste deux questions plutôt courtes. La première, c'est sur... vous avez parlé donc de l'éco-conception en bureau d'études. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans l'enseignement supérieur pour former, par exemple, les futurs ingénieurs dans ce domaine-là? Et la deuxième question, c'est par rapport à l'éco-conception des événements. Parce que vous parlez d'éco-conception de tout ce qui est produit. Et par exemple, un événement comme celui-ci, on voit qu'on amène du papier, on fait se déplacer des gens. Et donc, je voulais savoir dans ce domaine-là ce qui peut se faire.
Il peut se faire des tas de choses. Alors oui, on travaille avec les écoles et on essaye effectivement d'insérer des modules d'éco-conception dans les écoles d'ingénieurs. Et bon, petit à petit, ça se diffuse. Dans les écoles de design aussi, c'est intéressant. Et pour le deuxième point, oui, il existe beaucoup de choses sur l'éco-conception des événements. On est en train de quelque part de systématiser un outil par rapport au management environnemental des éco-événements. Donc juste pour illustrer, la dernière Coupe du Monde en France de rugby a été éco-conçue avec l'accompagnement de l'ADEME. On travaille aussi sur le Tour de France de vélo. Enfin, il y a quand même des gros événements.
Allez-y.
Oui, bon, donc moi je m'interroge sur l'ensemble de la démarche et en fait j'ai un problème, c'est-à-dire est-ce que c'est le moyen le plus adapté pour adresser ce type de problème? Parce que est-ce qu'on n'en arrive pas avec ces étiquettes? Bon, y a deux parties. En fait, il y a une partie où on étudie un peu les cycles et bon, bah ça c'est, je pense que c'est utile. Et la deuxième partie, c'est la labellisation où en fait, bon, on va faire un nouveau système de marketing. On va vendre de l'écologique, on va vendre de ceci, de cela, sans que ça corresponde forcément à quelque chose. Et est-ce que, bon, pour en revenir par exemple au téléphone, est-ce que les solutions, c'est pas plutôt d'adresser le problème en amont? Si on change les téléphones, c'est parce qu'il y a un système de distribution des téléphones qui fait que c'est l'opérateur qui impose de changer de téléphone quasiment, enfin, bon, parce que vous gagnez des points et puis bon, vous pouvez l'acheter à 1 €, alors que si les gens devaient acheter leur téléphone, peut-être qu'ils devraient faire attention à ce qu'ils achètent. Et bon, en fait, c'est tout un cycle à voir différemment. Et bon, ce genre d'opération, bon, je pense que ça a une utilité de faire prendre conscience aux citoyens. Mais en fait, bon, le citoyen, il se retrouve un peu, comment dire, bon, déjà sous-informé et en plus de ça, un peu prisonnier d'une industrie qui, bon, bah, a quand même des moyens de persuader pour consommer n'importe quoi.
Alors, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas toujours dire soit. Les choses peuvent être complémentaires. Alors, non, une analyse de cycle de vie et les indicateurs tels que ceux dont j'ai parlé ne peuvent pas répondre à tout. Ça ne permet pas de répondre à des problèmes territoriaux ou d'exposition, de concentration. Il ne faut pas leur demander tout, parce qu'ils ne pourront pas. Après, il y a d'autres politiques qui permettent de répondre à ce type de questions. Et par rapport au système auquel vous faites référence, oui, bien sûr, mais j'ai envie de dire que ça nous permet aussi d'avancer. Alors, le consommateur n'est peut-être pas obligé de changer de téléphone portable tous les ans. Les appareils durent à peu près 3 ans, techniquement. La moyenne de renouvellement, c'est 1 an. Donc, quelque part, c'est aussi intéressant d'informer le consommateur par rapport à ça. Et je dirais que là, depuis qu'on a fait notre analyse de cycle de vie, je ne sais pas s'il y a, et qu'on l'a rendu public, je ne sais pas s'il y a un lien direct. J'ai aussi entendu d'offres d'opérateurs dont l'abonnement se réduisait si on ne renouvelait pas le portable. Donc, c'est aussi des choses intéressantes. Et donc, ça permet de lancer des mouvements dans les systèmes.
Monsieur, après, oui.
Votre présentation était très intéressante, mais m'a paru un peu soft. Je veux dire par là que, en matière d'impact sur l'environnement, par exemple, il y a beaucoup de produits informatiques ou électroniques qui utilisent des métaux. Or, la production des métaux, les travaux des entreprises minières fournissent des dégâts considérables sur les milieux où ils exercent leurs travaux. Alors, peut-être qu'on ne s'en préoccupe pas tellement parce que c'est souvent dans des pays du Sud, mais enfin, il faut reconnaître que là, il y a des dégâts assez monstrueux, premier point. Et encore une fois, l'or et d'autres métaux interviennent dans l'informatique, l'électronique et d'autres produits. Deuxième point, vous avez évoqué la procédure REACH. Il faut peut-être dire aussi que les lobbies industriels, chimiques par exemple, ont longtemps bloqué la démarche et actuellement elle est extrêmement limitée. Alors quel est son avenir ?
Quel est son avenir ? Alors,
On va étendre le nombre des produits qui seront soumis à cette procédure pour vérifier leur innocuité par rapport au consommateur, à l'usager.
Alors, je ne suis pas la meilleure placée. En plus, l'ADEME n'est pas compétente en tant que telle sur les produits chimiques et sur le risque chimique pour parler de l'avenir de REACH. Certains peuvent souhaiter que ça aille plus loin. C'est quand même déjà un premier pas qui a été important et significatif. Et de part aussi ce retournement de la responsabilité par rapport au risque développement. Sur votre premier point, là, on prend en compte, même dans des pays à l'étranger, l'ensemble des impacts sur le cycle de vie. Donc aussi les impacts environnementaux de l'extraction minière. Alors, il y a un impact qui est très, très mal appréhendé, je reconnais, par ce type d'analyse, c'est l'impact sur la biodiversité. Et qui n'est pas non significatif. Mais normalement, on a bien une évaluation des impacts des activités d'extraction.
On va prendre encore une question.
Une question, Paul Arnaud. Je vais vous poser une question dans mon domaine du droit. Vous avez relativement au Grenelle de l'environnement. Vous avez parlé d'une obligation qui reposait sur les entreprises de dresser, à travers un étiquetage, un label, obligation de quantifier la nocivité, les nuisances en termes de bilan carbone ou de différentes nuisances environnementales. Alors, sous quelles sanctions est-ce que si l'entreprise s'y dérobe, que fait-on ? Et alors, plus loin, je vais vous demander, est-ce qu'on s'oriente, d'après vous, là, vous avez expliqué que on en était dans les cartons encore, on n'avait pas mis en œuvre, rédigé les décrets d'application, tout est encore dans les limbes, presque. Est-ce que vous pensez qu'on s'oriente, d'après vous, votre intuition, plus vers une société de la réglementation ? Ça va devenir l'écologie, les domaines environnementaux vont faire partie de la réglementation de la consommation à l'avenir ? Ou est-ce qu'on s'oriente plus, est-ce qu'on peut s'orienter plus vers un système incitatif ?
Alors, par rapport à la première question, je crois que vous y avez vous-même répondu, c'est que les décrets ne sont pas rédigés. Donc, en termes de sanctions, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Donc, nous, on est vraiment mobilisés au niveau de l'élaboration méthodologique et au niveau de savoir surtout comment on calcule et s'assurer que tout le monde calcule de la même manière pour que les informations soient comparables. Donc il y aura, de la même manière qu'un système de vérification, il y aura un système de sanctions, mais au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. Sur le deuxième point, est-ce qu'on se dirige vers une société de la réglementation ou de l'incitation ? Je pense que là, en tant que tel, on n'est pas vraiment ni dans l'un ni dans l'autre. Ou peut-être de l'incitation, dans la mesure où on va dévoiler une information. C'est juste de donner la transparence sur une information. En fait, on nous dit, je suis économiste de formation, la première chose qu'on nous dit, c'est le marché se rencontre, l'offre et la demande se rencontrent sur un marché à partir d'une transparence de l'information. Sauf que les impacts sur l'environnement au jour d'aujourd'hui ne sont pas transparents, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus par les consommateurs, mais souvent ils ne sont pas connus par les producteurs. On a fait une enquête cette année sur les PME. On s'est rendu compte qu'il y avait 80% des PME qui n'avaient aucune information sur les impacts environnementaux de leurs produits. Donc leur demander de mettre cette information sur le produit, ça va les obliger eux-mêmes à aller la chercher et à se poser des questions. Et donc, c'est une première étape. Se poser des questions, c'est se référencer par rapport à leurs concurrents, par rapport à leurs voisins. Et quelque part, ça devient une qualité du produit et une qualité du marché, quelque part. À la fois pour le producteur, à la fois pour le consommateur. Il y en a certains qui ne se posaient pas de questions. Et maintenant, quelque part, il va avoir une information supplémentaire. Et puis, petit à petit, il va l'apprivoiser. Et petit à petit, il va l'intégrer. Donc là, on est vraiment en train de rajouter une information. Et donc, on est plutôt dans un système incitatif que réglementaire.
Bien, Christine Cros, merci beaucoup.